Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Oh, pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on s'intéressait à Seinfeld qui a révolutionné les sitcoms dans les années 90. Aujourd'hui, pour cette collection numéro 3, place à la série qui a marqué la dernière décennie, Game of Thrones. On est parti pour 4 épisodes bien remplis. À mes côtés, pour disséquer cette série et l'examiner sous toutes ses coutures, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Bonjour Clémence.
Alors, comment s'attaquer à un monument comme Game of Thrones ? Quand on vous parlait de Seinfeld ces dernières semaines, on pouvait imaginer qu'une partie de nos auditeurs ne connaissait pas la série. Avec Game of Thrones, c'est différent. Vous ne l'avez peut-être pas regardé, mais à moins d'avoir passé les 10 dernières années dans une grotte, vous en avez forcément entendu parler. Ici, on ne va pas revenir en détail sur chaque personnage, ni même sur le détail des différents arcs narratifs. On pourrait tenir une année complète sur le sujet. Dans ce podcast et les prochains, on va plutôt se pencher sur le phénomène culturel derrière la série et revenir sur les coulisses de cette épopée télévisuelle. Game of Thrones, donc le trône de fer en français, c'est d'abord une série de romans publiés par George R.R. Martin à partir de 1996. Si le tout premier tome n'est pas un best-seller dès sa sortie, tous les volumes suivants apparaissent dans le New York Times Best-Seller List, la liste de référence des meilleures ventes de livres aux États-Unis. Et le 17 avril 2011, l'adaptation télé de ces romans débarque sur HBO avec aux commandes David Benioff et Daniel B. Weiss. Les spectateurs y découvrent dès le premier épisode de nombreux personnages et des intrigues complexes qui se déroulent sur deux continents fictifs, Westeros et Essos. Petit récapitulatif très rapide, le premier arc raconte l'histoire de Jon Snow et de l'hiver qui approche, le fameux Winter is Coming, des créatures qui menacent le royaume protégé par un immense mur de glace. La seconde intrigue, elle, se concentre sur le personnage de Daenerys Targaryen, la dernière représentante en exil de la dynastie déchue et qui va chercher à reprendre le trône de fer. Enfin, le troisième arc s'intéresse aux membres de plusieurs familles nobles qui cherchent, elles aussi, à conquérir ce trône et à prendre la tête du royaume des Sept Couronnes. Il faudra au total 73 épisodes répartis sur 8 saisons pour venir à bout de ce récit. Pari gagné pour HBO, Game of Thrones devient la série la plus regardée de la chaîne et détrône les Sopranos en 2014. L'année suivante, elle entre dans le livre des records comme la série la plus diffusée dans le monde avec 173 pays au compteur. Et côté audience, évidemment, les chiffres sont là aussi exceptionnels. Le tout dernier épisode de la série, diffusé le 19 mai 2019, rassemble 19,3 millions de téléspectateurs, une performance historique pour la chaîne. C'est aussi la série la plus récompensée de la télévision américaine, avec 738 nominations et 269 prix reçus depuis ses débuts, notamment un total de 38 Emmy Awards. Enfin, on y reviendra plus en détail dans un prochain épisode, mais je peux vous dire que Game of Thrones est une des séries les plus chères de l'histoire. Pfiou, tous ces chiffres, ça me donne presque le tournis. Pour la peine, je vous propose qu'on reprenne notre souffle avec quelque chose de familier et de rassurant, une mélodie à la fois épique et entêtante qui a planté le décor dès le premier épisode. Générique. Le thème principal de Game of Thrones. Il a été composé par Ramin Djawadi. Et c'est le moment où je laisse la parole à mes experts, hein, Stéphane, Rafik. Ce générique iconique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque?
On en plaisantait avec Rafik hors antenne, mais moi ça m'évoque un peu Rondo Veneziano, donc je suis pas super fan de la zig en soi, si ce n'est que bah évidemment comme on a vu tous les épisodes, bah forcément ça revient et c'est un thème leitmotiv. Moi ce qui m'intéresse par contre c'est le générique en soi, la construction du générique que je trouve très intéressante parce que je pense que c'est en fait c'est on voit toutes les la carte en fait de Westeros et de Essos, en fait on voit les différentes factions, j'ai envie de dire en fait les différents clans et différentes familles en fait qui vont s'affronter, et à chaque pas de nouvel épisode mais en tout cas chaque saison ils changent plus ou moins en fait le positionnement en fait des clans et la façon dont ils évoluent dans le récit.
Plus précisément en fait à chaque épisode on voit les lieux qui vont être montrés dans l'épisode en question. Donc ça change vraiment à chaque fois.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que ça touche du coup pour moi à quelque chose qui est constitutif de la fantasy dans l'esprit des gens en fait, c'est-à-dire c'est le côté rôliste en fait, c'est-à-dire vraiment en fait ça interpelle les joueurs de RPG
complètement
et du coup ça les met littéralement dans l'ambiance. Donc moi je trouve ça assez pertinent. Assez bien vu et puis moi je le trouve plutôt joli à l'œil en plus ce générique donc voilà c'est un des trucs en fait qui cautionne on va dire la qualité de la série pour moi, c'est-à-dire que en gros d'entrée de jeu je me dis ah oui donc ils savent de quoi ils parlent, c'est pas une adaptation faite un peu par-dessus la jambe quoi.
On peut dire aussi qu'on le doit à une star de la profession, ce générique, puisque c'est Angus Wall qui l'a supervisé, qui bosse notamment sur les génériques des films de David Fincher, mais qui avait déjà bossé pour HBO sur un générique absolument magnifique d'une série magnifique qui s'appelle La Caravane de l'étrange, Carnival en anglais, que je recommande vivement, dont le générique était absolument obsédant et donc animé également. Et en fait, la consigne au départ, c'est que il s'agissait pas forcément d'un générique, ça avait été conçu pour apparaître en cours d'épisode, pour permettre en fait de passer d'un lieu à l'autre et faire en sorte que le spectateur sache exactement où il se situait. Et finalement, ça cassait le rythme narratif de l'épisode. Et donc finalement, cette idée de voyage au-dessus d'une carte est restée dans le générique lui-même, puisqu'au départ, pour le générique, les concepteurs de la série, les showrunners voulaient simplement un corbeau qui survole qui part de Port-Réal, King's Landing, donc jusqu'à Winterfell. Ça devait se limiter à ça. Avant qu'on finalement, lorsqu'ils ont commencé à faire des tests sur le premier épisode, ils se sont aperçus que les gens étaient confus, donc ils étaient paumés dans la géographie et que du coup le générique devait les aider à poser ça. Avec évidemment, comme l'a fait remarquer Stéphane, une référence évidente au caractère rôliste. Enfin, aux origines rôlistes de la série, hein. Les deux showrunners sont des anciens joueurs de jeux de rôle. Mais aussi pas mal de références à la Renaissance, notamment aux machines de Léonard de Vinci, parce qu'en fait un certain esprit de la Renaissance baigne cette série, que ce soit les Borgia, les Médicis et autres, on en retrouve quelques traces en fait dans la narration. Donc ça c'est pour le côté visuel. Pour la musique, comme Stéphane, je suis pas forcément un grand fan. On a peut-être échappé à pire, ceci dit, puisqu'au départ, ça a été confié à Stephen Warbeck, le boulot de faire la musique mais ça se passait pas très bien avec Weiss et Benioff. Warbeck, donc, il a fait le film préféré de Stéphane qui s'appelle Le Shakespeare in Love, hein, pour lequel il avait eu l'Oscar de la meilleure musique.
Je m'insurge.
Et en fait, Djawadi, à l'époque, il sortait d'Iron Man, où il avait fait un boulot. Bon, encore une fois, je suis pas fan, mais il avait fait un boulot qui avait été remarqué dans la profession. Et du coup, il a été vivement recommandé par, je crois que c'est un chef option qui l'a vivement recommandé à Benioff. Et effectivement, ils ont été conquis par le personnage, sauf qu'il était pas dispo. Il devait faire un gros projet cinéma qui était la suite du Choc des Titans.
C'est la ça, colère des titans.
C'est ça, ça s'appelle, c'était le choc des titans. Autant pour moi. Et donc, il leur a dit qu'il pouvait pas le faire. Et comme vraiment il le voulait, il lui a envoyé les deux premiers épisodes pas encore terminés. Et là, il a été conquis et il s'est vraiment mis en quatre pour pouvoir honorer son contrat sur le choc des titans et quand même développer quelque chose là-dessus. Et le choix des instruments, notamment des instruments à cordes mis en avant, c'était pour éviter la flûte qui est souvent associée au genre justement de l'heroic fantasy, enfin de la fantasy en général, et donner un caractère peut-être plus baroque. Voilà. Moi, j'ai essayé de changer la musique une fois pour voir si c'est... Parce que je trouve le générique visuellement très beau, mais la musique me gêne. Donc, si vous voulez faire comme moi, je vous conseille le générique de The Lion in Winter de John Barry, un générique des années 60. Et vous collez ça sur les images de Game of Thrones et vous allez voir, c'est un tout autre effet.
Alors, petite précision, hein, Ramin Djawadi, c'est un des padawans de Hans Zimmer. Peut-être
oui,
que c'est aussi pour ça que
je suis pas forcément
pas plus
très
que
fan,
ça.
Ouais. Mais oui, il a bossé sur tous les Batman, etc. Oui.
Il a travaillé sur Pacific Rim également, Warcraft, et aussi sur notamment la série Westworld, autre gros carton HBO. Et pour compléter ce que tu disais, il a écrit les musiques originales de la série en 10 semaines avant le pilote de la saison 1, et elles ont été publiées donc en juin 2011, quelques mois après la sortie du pilote.
Tout à fait. Et le rythme. La rythmique particulière de ce thème, en fait, suggère le voyage. Donc, on le sent bien. Enfin, typiquement, on a un roulement de carrosses et de chevaux dans ce rythme, en fait.
Alors, pour ce premier épisode, on va s'intéresser au lien entre Game of Thrones et la mythologie. Game of Thrones, c'est une œuvre fantasy, hein, mais on est quand même loin des univers qui ont été créés par Tolkien ou Pratchett. On en parlait hors antenne, Stéphane. Toi, tu me parlais de réenchantement du monde.
Bah, en fait, il y a une approche qui est assez intéressante, je trouve. Je sais pas si c'est. Alors, confession, dès le premier épisode, hein, moi, j'ai pas lu les romans. Donc, je sais pas du tout. Et j'ai cru comprendre que c'était quand même assez fidèle, en tout cas dans la première partie de la série, sur ce qui se passe et tout. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, et c'est peut-être justement une des approches intéressantes de l'auteur, hein, George Martin. En fait, c'est vraiment l'idée que, en fait, George Martin, c'est un geek. Donc le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a pendant des années, longtemps défendu. L'univers de la fantasy, l'univers de la science-fiction, l'univers de parce qu'il est, il a écrit beaucoup de romans d'horreur, de récits comment dire de science-fiction, de fantasy. Et en fait, comme il a évolué dans certains milieux universitaires, il s'est quand même beaucoup confronté à une époque, en fait, aujourd'hui c'est beaucoup moins problématique, mais à une certaine époque, en fait, à un certain dédain pour cette contre-culture. Du coup, j'en viens à me demander si, au fil en fait de ses réflexions sur le genre, quand il a commencé à aborder Game of Thrones, les livres en fait dans les années 90, est-ce qu'il n'y avait pas justement l'idée de convaincre les réfractaires en se lançant en fait dans un récit qui va au fur et à mesure en fait où il se dévoile, tout simplement faire avancer le fantastique, la fantasy, l'aspect fantasy en fait dans le récit quoi. Je pensais à ça parce que moi en tant que spectateur j'ai l'habitude de ce genre de choses. Puis je pense pas mal de spectateurs aussi en fait dans les années 2000, hein, 10 pardon, depuis en tout cas le Seigneur des Anneaux et le succès que ça a été. Du coup en fait quand je regardais la série je me disais putain mais ils arrivent quand les dragons, ils arrivent quand les marcheurs, enfin ils prennent leur temps quoi. Et en fait cette réflexion là elle m'était venue en me disant mais parce que moi j'ai l'habitude j'ai pas de problème à avoir ce genre de comment dire d'éléments en fait dans un récit mythologique, mais du coup je me disais en fait ah il y a quand même on vit dans ce monde où ça existe, mais la plupart des gens n'y croient pas. C'est-à-dire que vraiment les 2-3 premières saisons, hein, c'est il y a ce truc de mais ça existe pas vraiment les dragons ou en fait c'était il y a longtemps. Qu'est-ce que vous racontez? Du coup, il y a une espèce d'approche très classique, médiévale, et en fait il y a cette idée de oui c'est ça réenchanter le monde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on avance dans le récit, il devient évident que ces légendes, ces mythes. Ces dragons, ces marcheurs blancs, etc. etc. existent vraiment. Et oui. C'est une menace qui est là, en fait.
Et oui, c'est vrai que les marcheurs blancs, au départ, sont décrits comme des créatures légendaires, mythiques, donc qui sont plutôt racontées dans des histoires pour faire peur aux enfants.
Voilà, c'est ça. Et du coup, assez régulièrement, la série joue avec ces notions-là de manière vraiment, en tout cas dans la première partie, vraiment, comment dire... alors, tu peux te poser la question, est-ce que c'était pardon, dû au budget? Est-ce que c'était parce que, certes, c'était un gros budget, hein, Game of Thrones, quand ça a commencé, mais déjà, c'était moindre que certaines séries HBO. Hein. À l'époque, il y avait, par exemple, Rome, je crois, c'était 100 millions de dollars la saison, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Le générique de Angus Wall aussi.
Voilà, et par contre, bon, Game of Thrones, ils avaient commencé à 50-60, ce qui est, bon, pas mal hein, pour une série télé, mais comme c'est quand même très ambitieux, on sentait qu'il y avait quand même des limites, à mon sens, hein, dans les premières saisons, dans la représentation de la fantasy, quoi. Et du coup, on pouvait se poser la question de est-ce que c'était une bonne manière. Enfin, je trouve que c'était une manière plutôt intelligente, en tout cas, de jouer avec ces manques-là et de vraiment en fait les utiliser avec parcimonie. En fait, bah par exemple, la naissance des dragons, ce genre de choses, etc., etc. Et du coup, en fait, cette manière, à mon sens, d'aborder la série est très intelligente. Elle provient probablement de la littérature, hein, de la source littéraire, mais elle est très intelligente parce que en fait, d'un seul coup, elle pousse des spectateurs qui seraient pas forcément intéressés par ce genre d'univers-là à s'y plonger et en fait à regarder ça, ne serait-ce que pour les interactions entre les familles, les personnages, ce genre de choses. Et en fait, de progressivement te dire, bah en fait, oui, tu aimes la fantasy aussi, puisque regarde, en fait, finalement, quand on te raconte ça et quand il amène progressivement, tu y crois toi aussi comme les spectateurs, comme les personnages, dans le de la série, quoi.
Mais c'est vrai qu'il faut se replonger à l'époque, hein, en 2011, HBO c'est connu pour des séries plutôt réalistes, pour Oz, pour Les Sopranos.
Oui, en même temps, c'est aussi la chaîne dans laquelle on décortique certains genres. Il y a une série qui va servir de modèle à Benioff et Weiss, parce que évidemment, lorsqu'ils décident d'adapter cette série de romans, ils disent que ça va être un tough sell, quoi. Ça va être dur à vendre à des chaînes de télé. Mais ce qui les rassure par rapport à HBO, c'est qu'HBO a produit Deadwood. Et Deadwood, il n'a pas été un succès, mais c'était quand même une série qui avait prétention à décortiquer tous les codes du western, c'est-à-dire à jouer avec des choses qu'on connaît tous parfaitement et à nous amener entre guillemets une nouvelle humanité derrière ça. Et c'est un vrai modèle qu'ils vont se fixer dans leurs efforts d'écriture. Ils disent, si ça a été possible avec le western, on doit pouvoir le faire avec la fantasy. Parce que évidemment, si eux se laissent aller à leurs instincts, on va dire, c'est pareil, hein, c'est des gros geeks. Ils ont tous les deux été longtemps sur Dungeon Master. Voilà, il y a tout ce passé rôliste et de fans de littérature de fantasy, comment dire, il y a eu le succès du Seigneur des Anneaux qui les a un peu dédouanés, mais ils savent que voilà, s'ils arrivent à faire comprendre à HBO que ça va être du Deadwood version fantasy, à ce moment-là, ça pourra se faire. Sur le genre de la fantasy, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un genre qui, au fond, est un genre populaire. T'as dit, je crois, les chiffres de vente des bouquins avant que la série n'arrive, c'est des gros chiffres. Enfin, c'est un best-seller sur le XXe siècle. La fantasy, c'est très très bien vendu. Tolkien, c'est probablement l'auteur le plus lu du XXe siècle. Mais le fait est que cette culture-là, assez bizarrement, n'a pas impacté les images. C'est-à-dire que le cinéma et la télévision n'ont jamais vraiment su s'emparer auparavant de ce genre-là, et c'est un genre qui a beaucoup plus irrigué des domaines comme justement le jeu de rôle dont on a beaucoup parlé, ou même un peu la musique dans les années 70, hein, tout le rock musical de Led Zeppelin et autres, il est complètement dans la continuité de Tolkien et etc. Et comment dire, Robert Howard, donc créateur de l'univers de Conan, des années 30 aux années 50, c'est des cartons de librairie. Ça se vend et il y a des rééditions sans cesse de cette littérature-là. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a tout un public pour qui c'est un monde étranger et qu'il va falloir conquérir?
Mais disons qu'on a d'une part la fanbase de Martin qui, eux, sont au rendez-vous, qui attendent vraiment la sortie du premier épisode. Ils sont vraiment très impatients. Et puis à côté de ça, il y a tout le reste du public qui ne sait pas encore.
Tout à fait. Je me souviens d'avoir lu une preview dans le magazine anglais Empire, à l'époque où le pilote était en tournage. Donc on avait eu deux photos, je crois. Et alors moi, j'avais pas lu les bouquins de Martin, mais c'est simplement le fait de parler de fantasy qui me dit, ah tiens, HBO se met à la fantasy, étonnant. Mais on sentait bien que déjà le type qui a écrit l'article était coincé dans une colonne, quoi. Il essayait de faire rentrer le maximum d'informations dans l'espace qu'on lui avait laissé. et on sentait qu'il essayait de donner envie, en fait. C'est drôle aujourd'hui de relire ça en se disant, bon, finalement, il fallait faire un effort pour dire aux gens, non, mais ça va être bien. On vous jure que ça peut donner lieu à quelque chose. Mais ça a été évidemment une grande crainte. Par rapport à, mais ça on en parlera peut-être dans un épisode consacré spécifiquement aux showrunners, voilà, de voir comment ils ont pu convaincre Caroline Thompson à HBO de faire ça.
Effectivement, on y reviendra en détail dans l'épisode 3 où on s'intéressera aux personnes derrière la série, hein, que ça soit George R. R. Martin ou les deux showrunners, mais aussi tout le reste de l'équipe. On parlera du tournage, etc. Un petit mot quand même sur les influences à l'origine dont découle cet univers, parce que donc Martin justement cite quand même pas mal d'auteurs. Il parle de Tolkien, il parle de Tad Williams et de Maurice Druon.
Oui. Tout à fait, Maurice Druon, donc auteur français des Rois maudits, qui a elle-même donné lieu à une série que beaucoup, je pense que la génération actuelle ne connaît pas, mais qui a fait les belles heures de la télévision dans les années 70. Les deux socles, on va dire narratifs pour George R. Martin, c'est effectivement les Rois maudits et la guerre des deux roses, qui est donc donc les Rois maudits, c'est une fiction, hein, on imagine après la chute des Templiers, il y a eu une malédiction qui est pesée sur les rois de France. Alors que la guerre des deux roses, c'est pour le coup quelque chose de documenté. Et donc c'est cette guerre, on va dire, cette guerre de deux grands clans, de deux grandes familles qui a mis à feu et à sang l'Angleterre, qui mettait c'était la famille des York et des Lancaster, qui vont donner en fait les Stark et les Lannister à peu de choses près, et qui a été vraiment un conflit très très violent avec beaucoup d'intrigues de palais, de d'égorgements dans des couloirs et voilà. Donc typiquement le genre de choses qui fait les belles heures du roman populaire, en fait. On aime bien dans une certaine littérature voir des gens de d'influence et de pouvoir complètement débauchés et se tuer les uns les autres. Donc ça fait partie des choses qui vont beaucoup séduire, hein, faut pas se le cacher. Il y a pas que les dragons et les marcheurs qui plaisent aux amateurs de fantasy. Il y a aussi ce côté un peu dark de l'envers du pouvoir.
Ouais, c'est vrai que c'est une série où on voit évidemment beaucoup de violence, beaucoup de sexe aussi. Et bon, c'est pas nouveau à cette époque-là à la télé, mais ça fait quand même partie des éléments qui vont attirer une partie du public vers la série.
Parce qu'il y a une chose qui est assez souvent constitutive de la fantasy et que finalement n'est pas si présente dans le Trône de Fer, c'est la question, je dirais, philologique. Puisqu'en fait, la fantasy, elle s'est beaucoup nourrie déjà, c'est un genre qui est né à la fin du 19e siècle, en fait, des récits d'aventure, hein, de tous ces gens qui partaient aux quatre coins du monde et qui ont ramené des récits merveilleux, etc. Donc ça, c'était l'époque des Lord Dunsany George MacDonald et autres, enfin, en gros, considérés comme les parrains du genre. Mais en fait, il y a eu aussi tous les travaux de philologie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait l'identité des peuples à travers leur littérature et leur folklore. Et donc le genre s'est naturellement nourri de tout ça. La fantasy, c'est probablement le genre qui utilise le plus le folklore populaire. Pardon. Et donc du coup, c'est aussi un moyen pour le public moderne, quand je dis moderne, c'est-à-dire y compris au début du XXe siècle, de rester en contact avec un legs naturel de ses ancêtres. Sinon, on aurait complètement oublié l'existence de gobelins ou des elfes si on n'avait pas cette littérature qui régulièrement nous ramenait à ça. Et souvent, donc du fait de cette histoire philologique, il y a comment dire, quelque chose un effort particulier qui est mis en scène, de mettre en scène des civilisations. Chez Tolkien, c'est manifeste, hein, les elfes sont vraiment décrits de façon très détaillée, de la même façon que la civilisation des nains est décrite de façon détaillée, etc. Alors que chez Martin, c'est des humains, tous. Donc, il n'y a pas de peuplades différentes qui cohabitent. On a les êtres fantastiques, qui sont un peu à la périphérie.
Les fameux marcheurs blancs,
voilà,
qui...
Ou les enfants de la lumière, je sais plus comment on les appelle, les enfants de la forêt.
Child of Light, ouais, les enfants de la lumière.
Mais le récit reste essentiellement autour des humains et il est vraiment ancré dans une forme de réalisme, qui fait que ça l'éloigne finalement de son maître à penser qui est Tolkien. j'y mettrais pensée parce que voilà, on s'appelle pas George R. R. Martin si c'est pas pour faire une référence évidente à J.R.R. Tolkien, quoi. Je crois qu'il a choisi son, tu m'as dit Stéphane, son deuxième prénom à 13 ans.
À l'âge de 13 ans, alors je sais pas si c'est connecté pour justement avoir ces initiales-là, mais en tout cas, c'est assez marrant, parce que ça fait très approche de geek, en fait, quand tu réfléchis, en fait, quand tu regardes ça avec le recul, quoi. Mais je sais pas si c'est volontaire.
Non, oui, je pense que ça l'est, moi.
Non, mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que est-ce qu'à l'âge de 13 ans, il s'était dit qu'il allait écrire des grands bouquins de fantasy, ouais, voilà, qu'il a fini par écrire 40 ans après, quoi. Donc, c'est ça qui est.
C'est aussi un genre qui se nourrit, bah, du coup, de notre histoire, avec un grand H. Et donc, bah, là, pour le coup, effectivement, la guerre des deux roses va beaucoup servir, à George Martin. Pas seulement parce qu'il y a tous les éléments d'intrigue, sympas, mais aussi, comme l'a dit Stéphane, pour donner une forme de crédibilité académique à ce qu'il est en train de faire. La fantasy est aussi un genre qui a été souvent mal jugé comme la SF, etc., parce que c'est un genre qui utilise beaucoup les archétypes et qui a vraiment les pieds à fond dans la mythologie, et c'est quelque chose avec lequel le monde académique se bat un peu. Enfin, je parle du monde littéraire académique. D'accepter, en fait, la part absolument nécessaire de l'enfant pour accepter l'existence du merveilleux, etc., dans la fiction. Ça, l'académie a toujours un peu de mal avec ça. On est encore coincé dans le réalisme, et donc du coup faire une série de romans justement entre guillemets réalistes, c'est-à-dire où finalement il y a pas de héros au cœur pur, il y a pas de princesse, voilà, c'est aussi une façon de séduire un public qui est pas celui qui rêve de
contes de fées.
De contes de fées, voilà. Ouais. Bon. Mais en même temps, ouais.
Non, vas-y.
Mais en même temps, dans les années 70, le genre a été pas mal, entre guillemets, pourri, je vais dire, mais ça de bonne façon, par Michael Moorcock, qui en fait a repris tous ces archétypes typiques de la fantasy auxquels on était déjà habitués pour les subvertir, en fait. Et chez Moorcock, il y avait cette tendance à faire en sorte que les personnages les plus sympathiques étaient généralement ceux qui mouraient les premiers. Ça, c'est quelque chose aussi qui va un petit peu rester chez Martin. Et j'insiste sur Moorcock parce que pour le coup, c'est un des dieux personnels de Benioff et Weiss, lorsqu'ils écrivent leur scénario.
À peut-être préciser quelque chose par rapport à HBO aussi, vis-à-vis de la production de la série, c'est que Carnival, peut-être un peu moins, mais en tout cas Rome, c'est un petit peu resté. Mais c'est des séries qui ont fait deux ou trois saisons, en fait, à chaque fois, et parce qu'elles coûtaient très cher, elles ne marchaient pas suffisamment pour comment dire, garantir, en fait, une vraie, voilà. Donc, d'où le côté un peu prudent, peut-être, en fait, dans la façon de se lancer. Ça a pris quand même 4-5 ans, hein, avant de...
Oui, 4 ans, ouais.
Voilà, de développement, en fait, avant d'arriver avec, en plus, enfin, des problèmes de production énormes sur le pilote, ce genre de choses. Et mine de rien, en fait, ce qu'il faut peut-être préciser quand on regarde ça avec un certain recul, c'est que le succès phénoménal, en fait, de Game of Thrones, il ne concerne pas justement que les fans de fantasy, ne concerne évidemment pas que les spectateurs de séries télé lambda. On touche à un vrai truc de phénomène, parce que je pense que même toutes les générations, en fait, regardent Game of Thrones. Et mine de rien, c'est quand même... enfin, moi, j'ai tendance à comparer le succès de Game of Thrones dans une certaine mesure à celui de Harry Potter, en fait, dans la façon, en fait, de vraiment ramener, tout un public qui serait pas forcément, encore une fois, intéressé à la magie, à la fantasy, en fait, à les faire rentrer tout doucement avec des éléments qu'ils connaissent. C'est-à-dire dans Harry Potter, tout simplement. Et en plus, il y a cette là où ça se rejoint, à mon sens, en fait, c'est qu'il y a aussi cette idée de grandir avec les personnages de la série. C'est-à-dire que dans Harry Potter, très clairement, on grandit avec les enfants, et je pense que si t'es un enfant qui découvre Harry Potter, qui est à peu près le même âge qu'eux, au moment où les films sortent, par exemple, ou même les bouquins, bah, il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement personnel, en fait, qui est très très fort. Et ça se joue aussi, moi, je trouve, sur Game of Thrones, parce que, mine de rien, bah, t'as la famille Stark. Tu les vois grandir, les gamines, en même temps que... Enfin, et pas que les gamines, d'ailleurs, tout le monde, en fait, en même temps que le truc. Et du coup, en fait, si tu veux, cet attachement-là est très, très fort. Et il concerne, je pense, toutes les couches, toutes les générations familiales, en fait, tout bêtement, quoi. Et mine de rien, c'est je sais pas si c'est jusqu'à quel point ça a été calculé. C'est-à-dire, je pense que sur Harry Potter, beaucoup plus que sur Game of Thrones, en tout cas dans la confection de la série. Parce qu'une série télé, on le sait, hein, ça peut être arrêté, du jour au lendemain, voilà, parce que d'un seul coup, ça marche plus. Alors qu'Harry Potter, je pense qu'ils avaient vraiment prévu le coup. On peut même presque dire que le succès des deux premiers films finalement a garanti le reste de la franchise. Mais là, sur Game of Thrones, ils ont aussi réussi ce pari-là. Et mine de rien, c'est ce qui rend la série quelque part, c'est ce qui lui donne un caractère exceptionnel à mon sens, des séries de qualité, hein, comme Carnival ou même Rome, pas finalement en fait dans le sillage d'HBO. Et mine de rien, je pense que personne chez eux, y compris les showrunners, y compris Martin qui lui prend son temps en fait pour écrire chaque nouveau livre, n'avait vraiment conscience que ça pouvait être possible en fait. Et ils l'ont fait quand même malgré tout. Et ça, c'est un certain exploit, je trouve.
Ils l'ont fait et ça a marché, effectivement. Alors, il y a encore énormément de choses à dire. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, hein, ce n'est que le début. Il nous reste encore 3 épisodes pour aborder de nombreux autres sujets en lien avec la série. Après sa mythologie, la prochaine femme en passera de l'autre côté du petit écran pour s'intéresser à l'impact que Game of Thrones a eu dans la vraie vie. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce premier épisode de cette nouvelle collection.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Game of Thrones. D'ici là, portez-vous bien.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.